France Musique. Musicopolis. Philidor, une position dans la musique. Les compositeurs sont souvent amenés à exercer un autre métier que la musique, soit par goût, soit pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Nombreux sont ceux qui sont interprètes, chanteuses, chanteurs ou instrumentistes, chefs d'orchestre, professeurs, critiques musicales. On a un exemple de médecin et chimiste ou d'officier de marine, etc. À ma connaissance, un seul s'est fait connaître avec un égal bonheur en musique et aux échecs. François-André Danican Philidor a été un enfant précoce, à tous les points de vue. Orphelin de père très tôt, un père compositeur et bibliothécaire du roi, il devient page de la chapelle à Versailles à 6 ans, 4 ans plus tôt que l'âge usuel. Il a sans doute déjà montré ses dons en matière musicale et il est accepté par André Campras, le maître de chapelle et professeur des pages qui va le former. Il a 11 ans lorsque son premier motet est chanté avec succès devant le roi. C'est pendant qu'il est page qu'il apprend à jouer aux échecs, un peu par hasard. Avant la messe, les musiciens ont l'habitude d'y jouer. Il y a plusieurs échiquiers dans la salle où ils attendent l'heure. Le jeune Philidor regarde et n'en perd pas une miette. Lorsqu'un jour, un vieux musicien peste parce qu'il se trouve seul, sans adversaire, le garçon se propose. Après avoir accepté avec un certain amusement, le vieux est étonné, puis vexé et fâché, au point que Philidor avance sa dernière pièce et s'enfuit à toutes jambes en criant « Mat !» Le jeune Philidor va bientôt battre tous les musiciens de la chapelle, tout en continuant à composer des motets de la meilleure facture. À l'âge de 14 ans, ayant terminé son apprentissage de page, il quitte la chapelle royale et se retrouve à Paris, vivant de quelques leçons et de travaux de copie musicale. Bientôt, il se trouve à fréquenter des cafés dans lesquels on joue aux échecs, et notamment le Café de la Régence, le plus célèbre d'entre eux, où officie un maître renommé. George Allen, biographe de Philidor, en donne cette description. Monsieur de Kermure, sire de Légal, âgé à l'époque d'une quarantaine d'années, régnait en maître dans ce célèbre café, et il était sans aucun doute un joueur d'une force extraordinaire, car seul Philidor a été capable de le battre, et pas avant qu'il eût atteint l'apogée de sa force. Il lui fallut 3 ans pour gravir les échelons à divers degrés, jusqu'à ce qu'il eût l'honneur d'affronter son maître à armes égales et à rang égal. Thank you. François-André Danican-Philidor est devenu une attraction au Café de la Régence à Paris grâce à son talent pour les échecs. Et d'autant plus le jour où M. de Légal, son professeur, lui demande s'il saurait jouer de mémoire sans regarder l'échiquier. Le jeune homme répond qu'il a l'habitude, la nuit, au lit, d'imaginer des coups et même des parties entières sans voir l'échiquier. Immédiatement, on le met à l'épreuve. Et il gagne sa partie sans aucune hésitation. Et puisqu'il y arrive si bien, il propose de jouer de la même manière deux parties en même temps, ce qu'il réussit tout aussi bien. Plus tard, il en jouera trois simultanément sans aucun problème. Non, ces deux époux, mis en scène dans Le soldat magicien, un opéra comique de Philidor donné en 1760, ne jouent pas aux échecs, ils jouent au tric-trac. Mais nous n'en sommes pas là, revenons en 1745. Le jeune Philidor a rencontré beaucoup de monde au Café de la Régence. Rousseau y vient souvent, tout comme Diderot, qui l'appelle Philidor le subtil. Or, le dit subtil, à 19 ans, n'a plus grand-chose à apprendre, à rester là. Il quitte donc Paris pour un long voyage qui va durer 9 ans. Il part avec des musiciens italiens, Geminiani et Lanza, pour une tournée de concerts aux Pays-Bas. La tournée terminée, il va vivre de son talent aux échecs. Il s'installe à Londres, où il s'établit comme le meilleur joueur d'Europe occidentale, quoiqu'il n'ait pas affronté les Italiens. Il voyage encore, il va jouer à Berlin devant Frédéric II de Prusse. En 1748, à 22 ans donc, il écrit son livre « L'analyse des échecs », publié l'année suivante à Londres, puis traduit en plusieurs langues et souvent réédité. En 1754, à 28 ans, réclamé par ses amis, notamment Diderot, François-André Danican-Philidor revient à Paris, avec dans l'idée de se faire un nom comme compositeur. Lorsqu'on l'interroge, il dit toujours que la musique est sa première occupation, que les échecs ne sont qu'un passe-temps, qui certes lui en prennent beaucoup du temps, mais qui viennent seulement en deuxième place dans son cœur. Pendant que Philidor était en voyage, le paysage musical parisien a changé, beaucoup changé. En 1752 a commencé une querelle, comme les Français les aiment, à propos de l'opéra. Musique italienne versus musique française. Justement, Philidor n'est pas allé en Italie, mais en Allemagne et en Angleterre, il a été en contact avec l'opéra italien et la musique italienne en général, qui est alors l'espéranto musical en Europe, hormis en France. Il en a beaucoup appris. D'ailleurs, il se présente pour un poste à Versailles avec un motet, Lauda Jérusalem, qui est refusé parce que trop italien. Qu'à cela ne tienne, il compose un recueil de pièces instrumentales, des quatuors, publié en 1755, puis il se lance dans l'opéra comique. La veine italienne de Philidor n'a pas plu à la Chapelle Royale et pas non plus à Rebelle, le directeur de l'opéra. En revanche, elle est parfaitement adaptée pour renouveler l'opéra comique français un peu dépérissant à cette époque. Des mélodies qui viennent bien, une écriture musicale savamment élaborée, quoique facile à entendre, des ensembles pleins de verve et d'esprit et une touche de parodie, comme cet ensemble qui rappelle le chœur des Trembleurs d'Isis de Lully. Thank you.
J'ai fait mon sang se fait glace, comme il faisait la grimace. Je l'ai fait mon sang se fait glace, comme il faisait la grimace. Crispable, monsieur, pas de grâce, mes amis qui se couvrent moi.
Avec ses opéras comiques, Philidor va obtenir de nombreux succès. On dit même qu'il est en quelque sorte le père de l'opéra comique. Ce sera d'abord Blaise le Savetier en 1759, puis Le Soldat Magicien donné en 60 au Théâtre de la Foire Saint-Laurent, dont le public appréciera beaucoup la musique et dont nous écoutions quelques extraits. En 1761, Le Jardinier et son Seigneur, donné à la Foire Saint-Germain, obtient tout autant de succès. La même année, Le Maréchal Ferrand est donné plus de 200 fois. Des ouvrages malheureusement pas enregistrés. Lorsqu'il fait représenter Le Sorcier en 64 au Théâtre Italien, l'enthousiasme est tel que Philidor et son librettiste doivent monter sur scène pour se faire applaudir, fait rarissime. En 1765, c'est le tour de Tom Jones, comédie en prose mêlée d'Ariette, d'après le roman de Henry Fielding, paru à Londres une quinzaine d'années plus tôt.
Tu ne craignons pas de déplaire, tu ne craignons pas ma colère. Vous et ma soeur, vous me trompiez, vous me trompiez, vous me trompiez. Non, 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 il faut me satisfaire. Non, non, je veux que vous l'épousiez, je prétends que vous me cédiez.
Mon père,
à ton père, tu ne craignons pas de déplaire, tu ne craignons pas ma colère. Vous et ma sœur, vous me trompiez, vous me trompiez, vous me trompiez.
Je me jette à vos pieds.
Non, il faut me satisfaire, me satisfaire.
Hélas, si vous m'écoutiez.
Non, je veux que vous l'épousiez, que vous l'épousiez.
Mon père.
À mon ami, j'ai donné ma parole. J'ai donné ma parole.
Quelques mots sur l'homme Philidor. Tous les témoins le décrivent comme charmant et d'un caractère extrêmement naïf, incapable de comprendre une plaisanterie, prenant tout au premier degré. Toujours concentré sur ce qu'il fait, que ce soit la musique, à laquelle il travaille le matin, ou les échecs, au café de la Régence où il se délasse l'après-midi. Et avec ça, un être d'une immense bonté, toujours prompt à donner ce qu'il a. S'il n'a plus d'argent, il donne ses vêtements. On raconte ainsi qu'un jour, s'apprêtant à sortir, il n'a plus que sa robe de chambre et doit rester chez lui. Son épouse, une femme d'une grande gaieté et de beaucoup d'esprit, a dû donner des ordres au valet pour que les vêtements de Philidor restent désormais dans sa garde-robe.
Pour le mémoire, 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 p
Au début du troisième acte de Tom Jones, Philidor fait chanter un petit ensemble a cappella à ses chanteurs, comme les Glees, tellement à la mode dans les pubs en Angleterre. Un petit clin d'œil à ce pays qu'il apprécie et où il retourne régulièrement. À partir de 1775, il y fait un séjour de quelques mois chaque année pour jouer aux échecs dans le club créé tout spécialement pour lui. Il continue à composer des opéras comiques, les révisant lorsqu'ils ne réussissent pas du premier coup, comme c'est le cas pour Tom Jones, qui, au deuxième essai, deviendra l'un des favoris du public. Il s'essaye aussi à des ouvrages sérieux donnés à l'opéra. Là encore, son Ernelind obtiendra un réel succès après révision. La mode à Paris a encore changé dans les années 70. La venue de Gluck a donné lieu à de nouvelles querelles. De plus jeunes compositeurs sont arrivés sur le devant de la scène. Philidor continue à composer. Il avait devancé les réformes gluckistes, mais sa popularité décline, et avec elle, sa productivité. En 1792, il part pour son séjour annuel à Londres avec un passeport en bonne et due forme. Mais les temps sont ce qu'ils sont. Son nom se retrouve injustement sur une liste d'émigrés. Il ne peut plus revenir en France sous peine de mort. Le sauf-conduit, très attendu, arrivera finalement en 1795, mais juste après la mort de Philidor, désespéré de ne pas pouvoir revoir sa famille. Le septuor final du deuxième acte de Tom Jones de François-André Danican Philidor avec Sophie Marin de Gore, Sébastien Droit, Marc Barrard, Rodolphe Briand, le Sinfonietta de Lausanne dirigé par Jean-Claude Malgoire. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Clément Diaz pour les recherches et le site, Pierre Monteil pour le mixage et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.